au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Au fil des pages s'intéresse aujourd'hui à l'histoire de l'automobile, véritable épopée technologique qui occupa tout le XXe siècle. Et pour évoquer cette aventure, aussi bien technique qu'humaine, je reçois Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes critique littéraire, chroniqueur et auteur de nombreux ouvrages d'histoire, entre autres sur l'histoire du livre et sur l'histoire des ordres de chevalerie. Mais avec votre dernier livre, vous vous plongez dans un autre univers, puisque vous racontez l'histoire de l'automobile. Vous venez donc de publier « Les éponymes de l'automobile au XXe siècle » aux éditions Cibier. Alors je précise tout de suite que vous ne vous êtes pas attaché à recenser tous ceux qui ont donné un nom à une marque ou à un modèle ou à un produit dans le domaine automobile. Ils sont bien trop nombreux, mais vous avez voulu raconter l'histoire de l'automobile au XXe siècle à travers 20 entretiens qui correspondent à 20 destinées. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Le choix, d'abord pour commencer, ce livre est né de l'idée de Marie-Claire Cibier-Miranda, donc qui est une éponyme, puisque son grand-père a créé les projecteurs, inventé plutôt les projecteurs Cibier, et son père a continué, et elle a continué, et puis finalement, c'est un petit peu ce que je raconte, un certain nombre de noms ont disparu, non pas dans les mémoires, mais dans l'industrie. Et c'est vraiment elle qui a eu cette idée, elle voulait raconter, qu'on raconte l'histoire de l'automobile d'une autre manière qu'avec des boulons finalement, parce que lorsqu'on parle de livres d'automobile, on pense aux boulons, aux vis, etc. Et là, vous en avez pas du tout.
Non, c'est vrai, moi qui ne suis pas une spécialiste de la question, c'était très agréable.
Et moi non plus d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle Marie-Claire Cibier m'a demandé d'écrire le livre. Et c'est ainsi qu'elle a fait des choix. Alors bien sûr, il y avait toutes les personnages, toutes les personnes, toutes les familles qu'elle connaissait, qui l'entouraient. Il y avait les incontournables, et peu à peu, entre les rendez-vous, ceux qui étaient disponibles, ceux qui n'existaient plus, ceux qui existaient encore, ceux qui avaient disparu qu'on a retrouvés. Finalement, ces quelques 20 entretiens sont nés à la fois d'une certaine volonté et d'un hasard. Alors, tout de suite, on va me dire, mais il n'y a pas Michelin, il n'y a pas Citroën, il n'y a pas Renault, il n'y a pas Peugeot. Et c'est vrai, ce sont les quatre grands et on s'attend à les trouver. Mais vous avez trouvé toutes les informations possibles et inimaginables sur eux dans des ouvrages complets. D'autre part, il faut dire qu'ils n'ont pas manifesté une très grande envie de vouloir répondre. Une famille s'est battue pour ne pas répondre, l'autre ne répond jamais. Le troisième, il n'y avait plus vraiment de descendants. Et le quatrième, il y a une chape de plomb autour de l'histoire de la fin à la fois de cette famille. Et donc, on n'en a dit pas plus. Donc, nous avons préféré privilégier des noms qui ne sont pas tellement connus du grand public, comme Souriau, par exemple.
Oui, oui.
Je cite cela, Souriau, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que les magnétos. Magnétos, on en a besoin pour faire démarrer les voitures. Et Souriau, en plus, a retrouvé son nom. Il l'avait perdu, il a retrouvé son nom, car Sagem, qui avait racheté cette entreprise, a redonné le nom de Souriau à l'un de ses produits.
Ce qui est rare, puisque beaucoup de ces éponymes, finalement, ont disparu, englobés par des grosses entreprises.
Oui, il y a toute une histoire. Il y a une volonté. Enfin, nous sommes passés maintenant à une ère de grands groupes.
Voilà.
Et cette disparition des noms, des éponymes, date des années 75 à peu près, lorsque le gouvernement de l'époque a décidé de faire des grands groupes.
Pour concurrencer les groupes allemands.
Oui. Et alors, ce qui fait que, malgré les promesses de Conception de Berlier, malgré les promesses de Renault, elle a complètement disparu. Bon, a disparu. Cibier, dont on parlait, est tombé sous la coupe de Valeo, comme d'ailleurs Neyman, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit.
Oui, on en reparlera.
Ça, c'est une dernière étape. Or, malgré tout, quand même, il y a encore des éponymes. Vous avez Pescarolo, que tout le monde connaît. Et Pescarolo fabrique une voiture qui s'appelle la Pescarolo. Bien sûr, c'est pas une voiture qu'on voit sur les quais.
C'est une
voiture de course. Vous avez Hommel qui fabrique encore des barquettes qui ne fabrique plus, mais il les entretient encore car ils en circulent toujours. Et sinon, on attend que...
Même Jean-Pierre Beltoise dans le circuit...
Alors, nous avons pris Jean-Pierre, d'abord parce qu'il est un garçon très sympathique, qui a plein d'histoires à raconter, en plus parce qu'il a donné son nom à un circuit et qui sert l'automobile, puisque ce sont des circuits de formation
à la sécurité, routière. Très bien. Et aussi, l'aspect que j'ai trouvé émouvant dans ce livre, c'est justement d'avoir recueilli tous ces témoignages. On se dit qu'il était temps, entre guillemets, de le faire, qu'on a été étonné que ça ne soit pas fait avant. C'était sauvegarder le témoignage de ces pionniers, parce que aussi la chose impressionnante, c'est qu'au cours de ce XXe siècle, c'était vraiment des aventuriers, ils partaient de rien.
Ils partaient, je disais avec des boulons tout à l'heure, mais c'était, on a une vieille charrette et on met, on retire les brancs et on met une sorte de moteur, ça explose, mais on continue. C'était des artisans, il y avait des fabricants de bicyclettes, instruments de liberté. Bah, Peugeot fabriquait des bicyclettes, mais alors Berlier lui avait oublié la bicyclette. Il m'a dit, j'ai loupé la bicyclette, faut pas que j'oublie la voiture.
Non, mais même René Bonnet, par exemple, qui était fils de menuisier, qui reprend le garage parce que son beau-frère est mort accidentellement, je crois.
C'est ça, oui.
Qui se lance après dans la course automobile et qui se dit finalement, mais pourquoi pas construire moi-même ma voiture? Il s'est associé et ça a donné
la DB.
Toutes ces aventures sont étonnantes.
Oui. Et alors là, c'est d'autant plus intéressant que à une certaine époque, dans les années 60-65, la course automobile française avait besoin d'un renouveau. Et le général de Gaulle avait confié à Bonnet, ça sera votre industrie qui sera choisie. Donc là, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que vraiment, on partait de rien. Puis finalement, les banques, les industries et tout ceci empêchaient que Bonnet, d'ailleurs, il était très marré de cette histoire.
Oui, oui. Alors, autre choix que vous avez fait qui est très intéressant, c'est que donc souvent l'automobile, à cette époque-là, on la connaît par les grands noms qui font partie aussi des éponymes, comme Bugatti, Delage. Mais vous vous êtes aussi intéressé à différents métiers de l'automobile. Vous faisiez allusion à Neyman, puisqu'en effet, j'étais très étonnée de voir que tout le monde connaît le Neyman, qui est le système qui bloque à la fois le démarrage et qui sert d'antivol. Et c'était Abraham Neyman qui l'a inventé dès 1931.
Oui, et l'histoire des Neyman est touchante.
Très belle histoire.
Est touchante, épouvantable, parce que ce sont des gens qui sont nés en Moldavie, de confession juive, donc c'était pas très agréable dans cette époque. Ils ont subi des pogroms. Et lui est parti travailler en Allemagne. Il a fait ses études à Toulouse. Après les études de Toulouse, il est parti travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant la guerre, tout d'un coup, pardonnez-moi, parce qu'il y a plein d'histoires. Il est reparti, s'est installé en Allemagne en 31. C'était pas la bonne chose. Il a inventé des voitures. Des petites voitures plus légères. Vraiment, la voiture du peuple, c'est lui, dans le fond. C'est l'Américain qui l'a inventé. Donc, du coup, il est reparti en France, il s'est caché. Enfin, c'est des histoires qui sont...
Il a repris ses études, parce qu'on lui interdisait de faire l'équivalent de polytechnique en Allemagne, justement, parce qu'il était juif. Finalement, il est venu en France. Enfin, non, en effet, l'aventure est assez complexe.
Assez complexe. Il retrouve, après la guerre, ses entreprises. C'est quand même assez extraordinaire, car ses collaborateurs... On va garder l'entreprise. Ensuite, en France, installé en France, il a continué à inventer des choses. Il a failli être écarté de son entreprise. Il l'a récupéré d'une autre manière. En fait, tout ceci est une histoire à la fois palpitante. Lui-même aurait un seul livre. Alors, le livre, de toute façon, a été écrit puisque sa fille, Nadia Neyman, l'a publié il y a pas très longtemps, un ouvrage qui est publié au Cherche Midi. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Jean Poir, qui est un grand monsieur, qui est très âgé maintenant, Paul Berliet, un petit peu plus jeune, mais pas de beaucoup. Ce sont des personnes qui ont traversé les siècles, qui ont vécu énormément d'aventures un peu tristes, surtout pour Berliet, notamment à la fin de la guerre.
Oui, pour tous, de toute façon, la guerre a été une épreuve pas possible.
Une très grande épreuve, mais on peut dire qu'il y a eu trois chocs pour l'industrie automobile et pour ses familles surtout. Il y a eu donc 36 ces grandes grèves, donc il y a eu la guerre. La fin de la guerre, où il y a une tentative de spoliation, bon, on l'a vu avec Renault. Berliet s'est retrouvé condamné aux travaux forcés, quand même. Bon, on lui a donné raison après. Mais son père n'a jamais su qu'il avait été blanchi. Enfin, blanchi de quoi d'ailleurs? Parce que qu'est-ce qu'on pouvait leur reprocher? Et puisque nous disions tout à l'heure, donc la formation des grands groupes. Mais l'histoire de Panhard, on voit à travers Jean Panhard, on a toute une histoire d'une famille, encore une
fois. Donc Panhard, qui est le plus ancien constructeur. Je croyais que c'était Benz, mais non.
Mais non, alors justement, c'était une grande querelle. C'était le plus ancien constructeur de série. Donc c'est lui le plus ancien constructeur. Et Jean Panhard s'est battu pour vraiment le prouver et le montrer. Et en même temps, à travers ses familles, donc ses drames, ses joies, donc le père, le fils, la sœur, etc. Donc toutes, c'est aussi ces incohérences entre tous ces fabricants qui se connaissent, qui faisaient des affaires bien sûr entre eux, qui se connaissaient, qui se liaient d'amitié, et curieusement, qui ne sont pas mariés.
Oui.
Il y a très peu d'alliances.
C'est ce que raconte d'ailleurs un peu à un moment Beltoise. Il fait allusion au fait qu'il connaissait tout ce milieu, enfin que tout le monde se connaissait et tout ça, mais que il y avait pas de vrai mélange quand même. Enfin, je sais pas comment dire.
Non, on peut pas l'analyser. Ils vivent ensemble, mais ils se marient pas. Mais ils ne vivent ensemble, ils ne se marient pas, entendons-nous. Entendons-nous, bien entendu. Et en même temps, il y a aussi autre chose que j'ai essayé de souligner, car à chaque fois, à chaque chapitre, j'essaie de donner une petite anecdote pour présenter les choses. En même temps, c'est que vous, comme moi, sommes concernés par l'automobile. Il y a un certain nombre d'histoires de ma famille qui sont dedans, qui circulent. On voit pas très bien. Il y a une dame qui est centenaire, qui conduit encore. À propos de Bonnet, justement, de Bonnet, il y a un film que j'ai retrouvé où Bernard Blier, tout jeune, conduit une voiture et se précipite dans une grange, etc. Alors, en fin de compte, c'est pas lui qui conduisait, c'est Bonnet lui-même. Film d'avant-guerre. Donc, j'ai retrouvé quelles étaient les vedettes, quelle était l'histoire. Bon, ça n'a pas laissé un grand souvenir dans le cinéma français, mais ça, c'est pas très grave. Et à chaque instant, le lecteur, toutes les personnes pourraient retrouver un souvenir personnel. Parce que, Delage. J'avais une Delage, me dit-on. Ou mon père avait une Delage. Alors, Delage est aussi intéressant parce que le petit-fils Delage, lui, n'avait aucune conscience de ce qu'avait fait son grand-père.
Très intéressant, ça.
Il l'a découvert vers à la fin de l'adolescence. Et là, il s'est passionné.
Il s'est passionné et à travers d'ailleurs l'histoire de Delage, on s'aperçoit aussi à quel point l'automobile occupait une place majeure dans l'industrie française et la renommée acquise par les Français dans ce domaine-là. Puisque le seul nom de Delage, ça évoquait tout le luxe et c'est la première marque à avoir fondé un club. Justement,
grâce au petit-fils.
Voilà, l'arrière-petit-fils est actuellement président du club. Mmh. Et c'est très touchant la manière dont il raconte comment il est arrivé, alors qu'il n'y connaissait rien finalement.
Non, il n'y connaissait rien.
Que maintenant, ça le passionne et il entretient beaucoup le souvenir de sa famille et
Bugatti,
de Delage.
L'histoire de Bugatti est un peu la même chose, car Michel Bugatti est le dernier fils d'Ettore Bugatti. Et il avait 2 ans ou 3 ans, donc il n'a pas connu son père. Alors, bien sûr, il a été élevé avec ce nom, mais c'est lui aussi, à la fin de l'adolescence, qu'il a pris conscience de ce qu'il en était. Alors, il essaye de pas trop faire partie des clubs, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et de temps en temps, il sort avec une Bugatti, mais pour l'amusement, il est moins impliqué, lui. Il reste un petit peu plus en retrait. Mais là aussi, Bugatti, quelle histoire!
Quelle histoire, puisque là aussi, la première Bugatti sort des caves, justement, des Ettore Bugatti. Quand on connaît le côté mythique de Bugatti par la suite, c'est étonnant de voir que ça partait de rien au départ.
Il faut savoir que Bugatti a remplacé Clément Bayard pendant la guerre, la Grande Guerre, à la municipalité de Pierrefonds, alors qu'il était italien. Donc il y avait toujours des liens.
Qu'ils étaient installés en Alsace.
Et on voit à travers ses descendants, à travers ses personnes, comment travaillaient ces personnages. On voit le personnage qui est un inventeur qui travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. On lui apporte le samedi le panier repas quasiment. Et en même temps, il décide chaque année de faire un voyage avec ses filles. Donc, elles ont à la fois le souvenir de leur père, qui est malheureusement mort il y a très peu de temps, et le souvenir de leur père qui travaillait et le père qui les emmenait en voyage. Vous avez ces exemples-là, comme de la même manière Bugatti, il l'a pas vu lui, Michel, mais il le sait de la manière dont travaillait son père, de la manière dont son père accueillait ses ouvriers. Et s'il y en a un qui arrivait en lui disant « j'ai une idée, je voudrais faire quelque chose », bien combien tu veux, va créer ta société, toute cette ouverture. Et il n'y a pas du tout de sens de patronat, de protection. On a vraiment, parce que ce sont des ingénieurs. Bon, alors, il y a quelques grandes familles comme les Peugeot, comme les Poires, qui avaient une certaine distance. Mais par exemple, pendant la guerre, la plupart de ces chefs d'entreprise allèrent visiter leurs ouvriers qui n'avaient pas pu échapper au STO. Quelques ont dit, il faut pas trop le marquer. Mais en fin de compte, ils ont pris le train, ils sont allés en Allemagne, autorisation pour aller dans l'usine, pour rendre visite à leur type qui était là coincé en Allemagne.
Ouais, enfin, cette histoire de l'automobile est vraiment une histoire humaine, donc comme on le voit. Et aussi, un autre aspect que vous abordez, c'est celui de la collection. Vous avez fait appel à la maison Christie's, et quand on voit que la prestigieuse maison de vente Christie's s'intéresse à l'automobile...
Ils ne sont pas fous, hein. D'abord, c'est un auctionnaire. Et c'est vrai que la collection d'automobiles est importante. Vous avez quand même beaucoup de ventes qui ont été faites en Angleterre et aux États-Unis et en France. On pourrait dire que l'un des pionniers des ventes automobiles en France, c'est Hervé Poulain, qui lui-même avait été pilote autrefois et qui continue d'ailleurs à en faire. Christie's, lui, s'est installé en France et vient d'arrêter. Donc ça, on ne le savait pas. Il vient d'arrêter les ventes en France. C'est Bonhams qui reprend, j'allais dire, sa clientèle. Et ça, on pourrait le voir à Rétromobile, qui a lieu dans peu de temps, dans 3 semaines, à peine. C'est un peu la grand-messe des collectionneurs.
Oui, je...
C'est là où les collectionneurs vont se retrouver. Et Est-ce que ces collectionneurs s'intéressent aux familles? Oui, je crois, parce que tout d'un coup, on leur montre que derrière les belles carrosseries, il y a des hommes.
Oui.
Donc, c'est plus seulement les boulons.
C'est plus, ça devient concret. Alors, nous n'avons pas le temps d'évoquer les 20 entretiens que vous présentez, Bertrand Gallimard-Flavigny. Je conseille donc à nos auditeurs de se reporter à votre ouvrage, Les éponymes de l'automobile au XXe siècle, paru aux éditions Cibier. Très bel ouvrage d'ailleurs, grâce à de nombreuses illustrations. C'est un joli livre. Cadeau idéal pour les passionnés d'automobile et plus généralement pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du XXe. Merci Bertrand Gallimard-Flavigny. Au revoir et à très bientôt.
Merci, à bientôt.